Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Vignes ont des oreilles, l'émission du vignoble de Nantes qui fait parler le vin et la vigne d'ici. Car oui, on l'oublie souvent, mais Nantes a un vignoble. Du littoral vendéen au coteau ligérien, ce sont près de 10 000 hectares qui s'offrent à notre dégustation. Bon, j'entends ceux qui me diront que les fiefs vendéens ne font pas partie du vignoble de Nantes. C'est penser petit. Pensons grand. Réconcilions-nous avec notre histoire. Acceptons la Vendée dans nos rangs. Folle Blanche, Malvoisie, Gamay, Cabernet, Côte, Pinot Noir, Chardonnay, tous grandissent et s'épanouissent ici. Mais dans ce nouvel épisode des Vignons des Oreilles, on va parler de la star des stars, du roi des cépages de la région, j'ai nommé le melon de Bourgogne. Pour tous les nouveaux arrivants, le melon de Bourgogne, c'est le cépage seul et unique de l'appellation muscadet. Alors, pourquoi melon alors que c'est du raisin? Et pourquoi de Bourgogne alors que sur les 9000 hectares plantés dans le monde, 8000 sont plantés autour de Nantes? Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Cousin du chardonnay, dont il partage certaines caractéristiques, le melon de Bourgogne, ou melon B, comme on l'appelle aussi aujourd'hui, est issu d'un croisement entre le gouet blanc, bon, si ça ne vous dit rien, là c'est normal, ce cépage a complètement disparu, et le pinot noir. Là, par contre, ça doit vous dire quelque chose, au moins si vous regardez des séries américaines où les femmes au foyer dépressives boivent du vin dans des verres d'un demi-litre. Mais sinon, c'est le cépage majoritaire des vins bourguignons. Le melon aurait été banni de sa région d'origine, la Bourgogne, donc, en 1395, par une ordonnance de Philippe II de Bourgogne, dit Philippe le Hardi, qui aurait exprimé en ces termes « Avons interdit, prohibé et défendu de planter et édifier, de nouveau en quelque lieu que ce soit, gamay, melon et autres plants de semblable nature. » Oui, la xénophobie, ça date pas d'hier. Notre petit melon aurait donc migré jusque sur les rives du littoral atlantique et aurait rejoint le vignoble nantais qui abrite à l'époque de nombreux autres cépages. Mais savez-vous comment le melon de Bourgogne a supplanté tous les autres? La légende raconte... Hiver 1709. Sous le règne du roi Soleil, le royaume de France connaît une vague de froid polaire comme jamais vue de mémoire de vigneron. On raconte que même l'océan était pris dans la glace. Le vignoble nantais gèle sur pied. Seul le cépage, le plus résistant de tous, l'exilé, le migrant, le melon de Bourgogne, survit au carnage. Bon, d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'il est reconnu pour autant. C'est bien la peine de survivre au dix-plaies d'Égypte. Voyez plutôt. Il aurait tout d'abord servi à l'élaboration d'eau-de-vie et de vin reconnus par tous, y compris par les élites locales, comme fort médiocre. Au XVIIIe siècle, les commerçants néerlandais, la mondialisation avant l'heure, le font sortir de ses frontières, y ajoutant des épices, dont de la noix de muscade, ce qui pourrait être à l'origine du nom muscadet. Après la Révolution française, le vignoble est détruit par les guerres de Vendée, puis par les crises que connaît la viticulture au XIXe siècle, avec l'arrivée des fléaux américains que sont le mildiou et le phylloxéra, et qui finissent de l'achever. C'est par la Révolution industrielle que le vignoble nantais se remettra à produire. Son marché devient celui des masses urbaines et ouvrières, alors en plein essor. La production d'eau-de-vie est abandonnée, le muscadet se fait vin de guinguette.
Le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens.
Depuis les années 90, le vignoble de Nantes réécrit son histoire et trouve sa voie selon la recette éprouvée par toutes les autres régions viticoles françaises. La nouveauté, c'est la qualité. Le melon B est unique au monde. 90 à 95% de la production mondiale pousse en pays nantais. Et l'AOC muscadet est la seule de tout l'univers qui utilise uniquement ce cépage. Une petite fierté locale. Si vous ne le saviez pas, maintenant, soyez-en fiers. Ah oui, mais ça ne nous dit pas pourquoi melon. Eh bien, en fait, personne ne sait. Voilà. Bon, en fait, la théorie la plus crédible serait la ressemblance des feuilles de la vigne du melon de Bourgogne avec des feuilles d'un plant de melon. Oui, on n'est pas toujours inspiré pour trouver les noms. Mais il est plus que temps de laisser la parole aux experts, et ce mois-ci, c'est Romain Maillet, qui est en charge des crus communaux au sein du syndicat des AOC muscadets à la Fédération des vins de Nantes, Cédric Belleuil, caviste à Nantes chez ABC Terroir, et Pierre-Marie Luneau, vigneron au domaine Luneau-Papin au Landreau, qui répondent à mes premières questions.
Quand j'ai commencé à travailler ici, la première réaction de ma mère notamment, c'était que j'allais pouvoir boire un petit verre à 11h. Nul n'est prophète en son pays, donc les vignerons du Muscadet, les grands vignerons, sont des stars à l'étranger. À peu près 300 restaurants étoilés dans le monde servent du Muscadet, y compris en France, la Tour d'Argent, le Georges V et quelques autres tables célèbres. Mais c'est à Nantes où la réputation et la connaissance n'est pas encore revenue.
On a des grands terroirs avec un grand cépage. Ah oui, nous on est des purs ambassadeurs du melon de Bourgogne. Alors moi je suis Pierre-Marie Luneau, on est vigneron au domaine Luneau-Papin, avec ma femme Marie, plus une dizaine de personnes avec qui on échange, on travaille tous les jours. Voilà. On fait une quinzaine de cuvées, voilà, on a 13 cuvées en muscadet qu'on fait avec le melon de Bourgogne. On a 11 lieux dits différents, et puis ensuite on a deux cuvées des cuvées de soif qu'on appelle les cuvées de printemps, avec des mises sur 5-6 mois sur lit, et ça c'est nos deux cuvées où c'est des assemblages de micro-parcelles qu'on assemble ensemble.
Alors voilà, le melon de Bourgogne ou melon blanc, c'est vraiment un cépage endémique de chez nous qui est présent depuis au moins le XVIIe siècle ou avant. Donc je m'appelle Romain Maillet, je travaille à la Fédération des vins de Nantes. Comme son cousin très proche qui est le chardonnay, c'est que c'est un cépage qui n'est pas variétal. Il y a des cépages qu'on dit variétaux, c'est-à-dire qu'ils ont des notes aromatiques propres, reconnaissables, finalement quel que soit le terroir. Je vais vous donner un exemple, le muscat ou le sauvignon ont des notes vraiment typiques. C'est moins le cas du melon et du chardonnay, mais l'intérêt justement c'est que ça va permettre une expression beaucoup plus facile des particularités liées finalement au terroir sur lequel on se trouve. Puisque la moindre modification un petit peu va se sentir sur les caractéristiques finales du raisin, bien sûr sous réserve qu'on travaille pour avoir un raisin qui va exprimer cette qualité-là, donc il faut une certaine rigueur évidemment.
Le sol va vraiment impacter sur le ressenti, l'équilibre et l'aromatique du vin. Sur un cépage melon de Bourgogne ou melon B comme on l'appelle maintenant, qui est vraiment très sensible à ce côté terroir. Donc quand on respecte ça, bah, effectivement, on a des muscadets très très différents. Je suis caviste à ABC Terroir depuis 8 ans. Et l'idée de la boutique et de la partie cave aussi, c'est d'avoir la plus grande sélection possible de vrais produits locaux, artisanaux évidemment, authentiques. Donc ça se traduit dans le côté cave par à peu près 150 vins du département, dont une soixantaine de muscadets ou melons de Bourgogne, le cépage du muscadet. Outre le petit muscadet classique que les gens connaissent, perlant, frais, donc un bon accord sur les huîtres, on a certains qui peuvent vieillir 15 à 20 ans, qui sont certains boisés, certains gras, iodés, un peu fruités. Enfin, on a une grande diversité de styles.
Chaque melon a sa propre aromatique, chaque cèpe a sa propre histoire, en fonction de là où il grandit, tout simplement. Tu ne fais pas le même vin ni le même raisin à côté de la voie express que à côté des marais de Goulaine. Tu as deux identités très différentes. Voilà, le chant de l'alouette le matin n'est pas forcément la même heure. Donc tu fais pas le même raisin.
Bah, la première chose, effectivement, c'est des éléments d'ordre de ce qu'on appelle le milieu naturel ou les facteurs naturels. C'est vrai que souvent on parle de terroir et c'est un mot qu'on a tendance un petit peu peut-être à pas idéaliser mais à lui donner une sorte de fonction un petit peu éthérée.
C'est une définition qui n'est que française, hein. Il n'y a pas de traduction dans d'autres langues. Donc même les anglophones vont parler de terroir. C'est assez propre vraiment à l'approche française et puis peut-être latine par extension. Donc oui, le terroir, bah, c'est la somme de l'endroit, du climat, parce que ça va jouer, hein, le même terroir avec des conditions climatiques différentes donnera un résultat différent. Et de la même façon qu'un terroir sur une année comme dire 2018 qui était exceptionnelle chez nous, avec un été chaleureux, chaud et autres, sera le même terroir va donner des résultats différents dans une année où l'été aurait été plus pluvieux. Donc là, on voit bien que sur un terroir absolument identique, les conditions climatiques ont une vraie influence. Et puis après, bah, la personne qui travaille, et puis les traditions viticoles aussi, hein, qui est propre à chaque région, et après, à l'intérieur de ça, à chaque vigneron, effectivement.
La première chose, en fait, c'est vraiment une interaction entre des facteurs humains, qui sont les vignerons qui exploitent, vignerons et vigneronnes, et des facteurs naturels, qui sont la géologie, c'est-à-dire le sous-sol, la pédologie, c'est-à-dire le sol, et puis ensuite par-dessus le climat, le microclimat et le végétal, la vigne. Et c'est l'interaction de tout ça et du savoir-faire des hommes et des femmes qui font qu'on a un produit qui a une identité.
Parce que le vigneron, par un bon ou par un mauvais geste, il a une grande responsabilité, que ce soit sur toutes les saisons, hein, la taille l'hiver, les premiers labours de vigne au printemps, le premier traitement à la fleur, laisser la vigne tranquille l'été, le mauvais jour de vendange. J'en discutais avec des copains vignerons, un mauvais soutirage, une prise d'oxygène, une dose de bois trop prononcée, une dose de soufre mal gérée. Tu peux complètement anéantir ce qu'on appelle un très grand terroir. Et ça, c'est très, très. Faut être très sensible à tout ça et vraiment être à l'écoute. Et puis on apprend tous les ans.
Un facteur seul ne joue pas, c'est-à-dire qu'il faut forcément des vignerons pour faire du vin. Et bien sûr aussi, il faut un sol et un sous-sol qui va avoir des caractéristiques. Et donc c'est la combinaison de tout ça qui constitue finalement un terroir.
Vous savez, derrière le mot terroir, ça veut tout et rien dire à la fois. Aujourd'hui, on parle de terroir, on parle de minéralité. Oh, il y a tellement de choses à dire derrière ces termes. Qu'est-ce qui change? Bien sûr, la magie du vin, c'est la notion de millésime, hein. Voilà, chaque millésime a sa propre identité. Ça, c'est le plus important en fonction des 4 saisons qu'on a vécues. Première chose. Deuxième chose, le vigneron. S'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, tu ne fais pas les mêmes raisins. Ça, c'est indéniable. C'est pareil, on est quand même beaucoup d'hommes à travailler dans les vignes. Donc, je dis toujours avec les gars le matin, voilà, faut se sentir à l'aise, quoi, faut se sentir bien. Et avant d'aller, par exemple, là, on va vivre la saison de taille qui va quand même durer 3 à 4 mois au domaine. Je leur dis toujours, comme quand on fait du tracteur, avant d'aller dans la parcelle, commencez par descendre de votre tracteur, faites le tour à pied de la parcelle. Et puis, soyez bien avec vous-même et soyez bien avec la parcelle. Et rien que ça, c'est une petite chose, hein, au quotidien. Mais t'as pas la même approche dans ta journée ensuite quand tu travailles. Et puis, bien entendu, hein, le melon de Bourgogne, on est bien d'accord. On est en Bretagne, Sud-Bretagne. Donc, qui dit Bretagne dit vieille chaîne montagneuse, qui est très, 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 très vieille, qui a 500 millions d'années. Et si tu veux, on est on appelle ça la suture de 2 anciens continents. Donc, vu qu'on est à la rencontre de ces anciens continents, on a une grande diversité à la fois de roches magmatiques, à la fois de roches métamorphiques. Voilà, il y a une grande, grande diversité. Hein. On appelle ça la géologie, mais bien sûr, il y a la pédologie derrière. La pédologie, c'est l'étude des sols, qui est aussi très, très intéressante en fonction que ce soit sur des granites, des micaschistes, des gneiss, des orthogneiss, la serpentinite, des gabbros aussi. Voilà toute la diversité. Et j'en passe, il y en a beaucoup dans la région.
Le sous-sol, bien sûr, va jouer finalement sur la fabrication du sol. Le sol chez nous, on est sur un sol qui est plutôt issu de la dégradation du sous-sol. On n'est pas sur ce qu'on appelle un sol sédimentaire. C'est-à-dire que le Nantais, il n'est pas sur un sol qui est issu du dépôt de fleuves. Ce n'est pas du calcaire. On est vraiment sur l'érosion du sous-sol. Et donc, la nature de la roche, eh ben, elle va faire qu'on a un sol qui a différentes caractéristiques et qui va donc alimenter la vigne de manière différente. La vigne, elle se nourrit de minéraux, hein, essentiellement. Il y a plusieurs aliments, mais la vigne, finalement, elle pompe de l'eau, hein, avec ses racines. Et dans cette eau, il y a un certain nombre d'oligo-éléments, de minéraux, etc., qui vont servir à son alimentation. Donc, il va avoir de l'azote sous forme nitrate, etc. Mais on va aussi avoir tout un tas de minéraux, du manganèse, du magnésium, du calcium, du bore, enfin tout un tas de choses qui, même à très petite dose, vont servir à son alimentation. Et donc évidemment, on peut avoir, suivant les sols, des équilibres un petit peu différents. Si on prend, on prend l'exemple de deux terrains, on va prendre un terrain de Clisson qui est sur des granites très caillouteux. Donc la vigne, elle s'enracine profondément, mais c'est des sols, ce qu'on appelle drainants, qui gardent peu d'eau. Donc la vigne peut un peu manquer d'eau en été, elle peut stresser un peu, mais elle va concentrer, on va avoir beaucoup de degrés. Les gabbros, on a des sols plus argileux, plus froids, le raisin met plus longtemps à mûrir, il va garder davantage d'acidité. En revanche, on a une vernange qui tient vraiment très bien et qui va donner finalement un raisin avec d'autres équilibres, ce qu'on appelle plus de tension, souvent des notes plus fraîches, alors que le Clisson va être sur des choses plus mûres, plus confites. Donc ça, à la fin, on va avoir un raisin différent et bien sûr un vin différent.
Ah oui, à force de cueillir le raisin, à force de tu fais pas la même soupe de chou-fleur. Chaque jardin, c'est vrai, une soupe de légumes, c'est tout simple. Hein, tu peux en faire plusieurs dans l'année. Entre des sables et de l'argile, ton chou-fleur n'a pas le même goût dans la soupe le soir ou le midi. Et c'est pareil pour le vin. Ah oui, une coloration directe, tout à fait.
Et bien sûr, ça se surajoute à d'autres paramètres, comme la topographie. Le sous-sol influe sur la topographie aussi. Hein, et donc, l'exposition, par exemple, sur des pentes sud, nord, sur des terrains drainants, sur des pentes qu'on appelle convexes ou concaves, tout ça va aussi, bien sûr, s'imbriquer pour donner un milieu qui a des caractéristiques différentes à chaque fois.
C'est la même chose qu'aller demander en Bourgogne, pourquoi est-ce qu'un premier cru est d'un côté de la route et de l'autre côté de la route, c'est juste un Bourgogne générique. Hein, il vous répondrait à peu près la même chose. Il y a vraiment un ensemble qui est un peu partout. Hein. C'est pas propre au Muscadet, mais c'est juste qu'on le redécouvre dans le Muscadet. C'est que chaque parcelle a un environnement qui lui est propre et que la parcelle d'à côté, parfois, peut paraître identique vue de l'extérieur, mais vit dans des conditions qui seront différentes. Donc ça sera une multitude énorme de micro-climats qui feront que finalement chaque parcelle vit différemment.
Tout ce travail de précision des terroirs est reconnu pour l'appellation Muscadet-Sèvres-et-Maine depuis 2011, avec les crus communaux Clisson, Gorge et Le Palais, et quatre autres qui viennent d'être officialisés en 2019, Château-Thébault, Mousillon-d'Hier, Monnières-Saint-Fiacre et Goulaine.
Le Muscadet en parcellaire, ça n'a pas 10 ans, ça fait déjà, je pense, plus d'un siècle que les vignerons cultivent et vendangent parcelle par parcelle.
Il y a vraiment plein de très très bons vins quelle que soit l'approche, finalement. Et c'est ce qui fait dire, notamment, c'était le Wall Street Journal qui avait écrit à New York que c'était le vin blanc avec le meilleur rapport qualité-prix au monde. Selon le moment, selon le contexte, y a certains muscadets qui vont me donner envie plus que d'autres à ce moment-là. Mais ils ont tous intérêt. On a vraiment un coup de cœur pour chacun de ces vins-là. Et qu'on trouve qu'ils ont une pertinence et ils ont une vraie ils ont une vraie personnalité. Et ça va dépendre plus du moment, de l'endroit, des gens avec qui on est, du budget qu'on veut mettre. Et, enfin, le vin reste un produit passionnel, donc il faut qu'il y ait un peu de ressenti, d'humanité, de passion, de folie des fois dans le choix du vin. Craquer pour une grande bouteille alors qu'on ne voulait pas ce soir-là, ou juste l'envie de partager un petit verre avec des copains. Et sur le pouce, Muscadet permet tout ça.
Alors, il faut sortir des sentiers battus, d'accord ? Sortir de ses certitudes et goûter. Ne pas arrêter de goûter, toujours goûter. Quand on aime le vin, on ne boit pas les étiquettes. On ne boit pas les étiquettes quand on aime le vin. C'est chaque fois une exploration. Le Muscadet, c'est pas seulement avec les huîtres, c'est aussi avec la galette Saint-Michel à 10h, c'est aussi avec les copains pour l'apéro ou avec le boudin noir aux langoustines du restaurant des Champs d'Avril. Mais le mieux, c'est de bluffer tout le monde à Noël en sortant une vieille bouteille, peut-être même de la fin du siècle dernier, je parle bien entendu du 20e, soyons raisonnables, et de la servir à l'aveugle. Et vous verrez alors beau-papa s'extasier devant ce Bourgogne premier cru, et d'ailleurs je crois reconnaître la salinité caractéristique d'un Alaus Corton 95. Et toc, beau-papa!
Le Musaki, c'est le Musaki. Ah.
Ami, depuis que je suis né, je bois le bon vin du palais, car il est bon pour ma santé. Bois avec moi le muscadet. Les gens plaignent mon triste sort, certains disent que je bois trop, mais quand je suis trop sous, je dors de préférence sous un tonneau. Buvons tous à plein verre, le muscadet, mes compagnons. Buvons tous à plein verre, l'eau, c'est bon pour les poissons. À table avec tous mes amis, l'on rit, l'on chante à plein poumon, et l'on boit le vin du pays, le muscadet, mes compagnons. Entre ma bouteille et ma femme, l'on me demande qui est la plus belle. Moi, je réponds que c'est ma femme, mais que la bouteille est plus fidèle. Buvons tous à plein verre, le muscadet, mes compagnons. Buvons tous à plein verre, l'eau, c'est bon pour les poissons. J'étais en tristesse, c'est que ma femme m'avait chassé. Je suis allé voir ma maîtresse, et la bouteille j'ai pu caresser. Buvons tous à plein verre, le muscadet, mes compagnons. Buvons tous à plein verre, l'eau, c'est bon pour les poissons. Le muscadet réchauffe le cœur, il fait briller les yeux des filles. Des chasseurs, les pleurs, il fait danser les jolies filles. Buvons tous à plein verre, le muscadet, mes compagnons. Buvons tous à plein verre, l'eau, c'est bon pour les poissons.
Que sais-tu sur moi?
Je sais tout.
Ici, tu as une chance de faire partie de quelque chose qui te dépasse. Une nouvelle espèce est en train d'éclore. Aide-moi à la guider, à la modeler, à lui donner un sens.
Vous aurez peut-être reconnu l'extrait de la bande-annonce de X-Men. Oui, vous êtes toujours sur JetFM et vous écoutez Les Vignons des Oreilles. Alors, a priori, rien ne pourrait relier le vignoble nantais et la saga de Marvel X-Men. Eh bien, détrompez-vous! Un nouveau type de raisin, un nouveau cépage mutant, un X-Grape, vient de faire son entrée le 2 avril 2019 dans le très officiel catalogue des espèces et variétés végétales du ministère en charge de l'agriculture. Le melon de Bourgogne, notre cépage blanc, a subi une mutation extraordinaire puisque de blanc, il est passé à rouge. De blanc, il est devenu rouge. Et ce nouveau cépage se nomme désormais melon de Bretagne. Cher auditeur, tu as bien entendu, de Bretagne, comme le cidre, la duchesse Anne ou le pâté Hénaff, sauf que rien à voir. Nous avons donc un mutant dans notre vignoble. D'accord, mais une mutation, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, c'est un truc complètement banal dans la nature, même si elle passe souvent inaperçue. Il y a des mutations visibles et des mutations non visibles. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les mutations ne sont pas adaptationnistes, elles ne surgissent pas parce que l'organisme en a besoin ou pour que l'espèce survive. Les mutations sont totalement aléatoires et spontanées. C'est-à-dire qu'elles apparaissent comme ça, par le fruit du hasard. En termes d'évolution, les mutations utiles et adaptées résistent et se perpétuent. Par exemple, si elles donnent un avantage en termes de survie ou de reproduction à l'individu muté vis-à-vis du reste de l'espèce, et elles disparaissent dans le cas contraire. Les plus adaptées survivent. Merci Darwin! Enfin, je dis le fruit du hasard, mais aujourd'hui on sait que certains agents extérieurs favorisent les mutations, telles que les radiations, les UV et même les virus. Bon, revenons à notre melon. C'est chez Jean-Luc Viau, vigneron au Landreau, chez qui tout a commencé. Enfin, à l'époque, c'était encore chez son père Pierre. Et Jean-Luc m'a raconté l'histoire.
On est en 1995 et... Papa qui part dans les vignes, tailler la vigne assez tôt après les vendanges, arrive dans une des parcelles où il était à tailler. Et à l'époque où donc tout était vendangé à la main, c'est quand même important ça, parce que c'est vrai que si ça avait été vendangé à la machine, je pense qu'on ne se serait jamais rendu compte. Et en arrivant sur un des cèpes, il observe des grappes de raisins rouges qui avaient été laissées par un vendangeur. Et en observant de près, il aperçoit également, il y avait donc des verjus. Alors, les verjus, ce sont des grappes de deuxième génération qui arrivent en bout de rameaux, qui sont plus hauts, mais qui ne sont pas mûrs au moment de la maturité. Et en effet, là également, il y avait des raisins rouges. Et bizarrement, dans le même cep, il a observé également des raisins blancs. Très, très curieux. Voilà. Et il a eu la bonne idée, dans l'instant, de marquer le cep, d'aller l'identifier. Et puis de faire venir des voisins pour constater le phénomène, parce qu'il s'est dit, il y en a qui vont me prendre pour un fou. Et puis les années se sont suivies, et tous les ans, en allant observer ce cep-là, à un moment des vendanges, en effet, il y avait une partie du cep qui donnait des raisins rouges et une partie du cep qui donnait des raisins blancs. Donc papa à l'époque en avait fait part au conseiller de la chambre d'agriculture qui était venu et qui n'avait pas forcément pris plus cas que ça. Il s'est écoulé quelques années sans qu'il se passe quoi que ce soit, et c'est un jour un vigneron du Landreau qui en avait parlé à des responsables de la profession dans notre vignoble. Il s'était dit, chez Pierre, là, il y a un cep qui paraît intéressant, ce serait bien de s'y pencher. Et donc, il y a eu un petit groupe de travail qui s'est mis en place au début des années 2000, vers 2003. Il y a eu un petit groupe de travail. Et ce petit groupe de travail donc, a fait qu'on a rencontré les gens de l'INRA de Montpellier. Et en 2004, on a envoyé des boutures à l'INRA de Montpellier pour authentifier le cépage, pour savoir pourquoi les raisins devenaient rouges. Et donc, on nous a répondu que la carte génétique était la même que celle du melon blanc, mais qu'il y avait un gène de plus qui apportait la couleur rouge au moment de la maturité. Et donc, ils nous ont dit, voilà, vous avez eu une mutation génétique qui s'est opérée dans la nature, une mutation partielle sur un cep. Mais bon, donc c'est bien du melon rouge, noir, peu importe, mais donc c'était bien une variété de melon. Alors c'est là que donc on a décidé de mettre en place une expérimentation pour reconnaître cette variété de cépage qui venait de naître dans notre vignoble. Il a fallu donc dans un premier temps planter deux parcelles expérimentales issues de ceps qui avaient été greffés par l'INRA de Montpellier. Donc le melon rouge, aujourd'hui appelé melon rouge, a été mis en comparaison du melon blanc traditionnel. Et donc ces cépages-là ont été mis en expérimentation sur deux parcelles de vignes, une sur le domaine, au Landreau, et une autre sur un domaine à Corcouet-sur-Logne, chez M. Malida. Donc tous les ans, des essais de vinification, enfin, ou des vinifications ont été faites par la Sicarex qui est basée à Vertoux. Il a fallu 4 années de vinification, voilà, de dégustation, pour faire enfin reconnaître le melon rouge.
Et alors, est-ce que le melon rouge a un goût différent ?
À même date de maturité, il y a toujours moins d'acidité dans le melon rouge que dans le melon blanc. C'est au niveau gustatif, on va se rendre compte qu'il est un peu plus doux. En fait, il s'appelle melon rouge, mais c'est un cépage à partir duquel on n'arrivera pas à faire de vin rouge. On pourra en faire un rosé, chose que j'ai réalisée cette année. J'ai fait un rosé tranquille. Ou autrement, donc depuis plusieurs années, moi je l'élabore en vin de base pour faire de la méthode traditionnelle.
La méthode traditionnelle, c'est la méthode champenoise. On prend un vin de base, c'est-à-dire un vin tranquille, après sa fermentation alcoolique, et on le refait fermenter en bouteille pour créer ce qu'on appelle la prise de mousse, et c'est ça qui va faire les bulles.
Au niveau aromatique, on est plutôt sur des arômes de fraises, et même en vin de base blanc, généralement, c'est un peu il y a une même similitude où on retrouve souvent ces arômes de fraises. Il est peu acide, ça c'est la particularité du melon rouge, donc c'est un vin qui a peu d'acidité, qui a beaucoup de volume. Un petit peu atypique pour un rosé. Mais justement, l'avantage, c'est que ce sera encore différent de ce qu'on peut trouver dans les rosés actuellement. Je pense que sur l'étiquette, je marquerai melon rouge, voilà, pour identifier le cépage. Si aujourd'hui il y a une multitude de cépages au monde, c'est bien parce qu'il y a eu justement ces découvertes. Il n'y a pas eu que des assemblages faits en laboratoire, mais il y a vraiment eu des naissances qui ont eu lieu dans la nature. Si aujourd'hui, en Pinot, on trouve un Pinot blanc, un Pinot gris, un Pinot noir, c'est bien qu'il y a eu ces mutations à un moment donné. Voilà, et donc, ce qui est la même chose là, pour le melon aujourd'hui. Un nouveau cépage pour le vignoble nantais.
Jean-Luc Viot m'a tristement annoncé hors micro que le cep muté originel était décédé il y a quelques années. Mais il laisse une descendance prometteuse. Grâce à lui, un nouveau cépage est né. Affaire à suivre donc, soyez attentifs. Dans les rayons de votre caviste, il se pourrait bien que le melon de Bretagne fasse une entrée rosée et effervescente. Et si vous êtes curieux, le domaine Jean-Luc Viot au Landreau organisera une dégustation au mois d'avril 2020. C'était Les Vignons des Oreilles, tous les premiers samedis du mois, l'émission du vignoble sur Jet FM présentée par Pauline. Je vous retrouve le mois prochain, le samedi 7 décembre à 18h30 pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez retrouver le podcast d'aujourd'hui sur le site de la radio jetfm.fr. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite un très bon week-end sur Jet FM.